Il y a parfois dans la Bible des textes qu'on aime apprendre par cœur, n'est-ce pas? Qu'on aime se rappeler régulièrement. Des textes aussi qu'on aime partager avec les autres parce qu'ils nous ont encouragés ou consolés. Il y a parfois dans la Bible des histoires qu'on trouve magnifiques, qui nous délivrent de beaux messages ou qui nous apprennent de belles leçons. La confiance d'Abraham, l'intégrité de Joseph, la foi de Daniel et ainsi de suite. Et puis, disons-le honnêtement, il y a aussi parfois dans la Bible certains textes ou certaines histoires qu'on préférerait vite oublier. Il y a certains passages qu'on aimerait bien supprimer si on le pouvait. Et les deux textes que nous venons de lire à l'instant feraient, je crois pouvoir dire sans me tromper, indéniablement partie de cette dernière catégorie, de ces passages qu'on aimerait pouvoir effacer discrètement. Parce qu'ils sont quand même assez déroutants. Mais qu'est-ce que c'est que ces versets qu'on vient de lire? Qu'est-ce que c'est que ces textes du Deutéronome ou de Josué? Guerre, destruction, extermination, tout cela associé à la volonté de Dieu? Mais aurions-nous raté un épisode? Ou parlerions-nous d'un autre Dieu? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en toute franchise, ces paroles me troublent. Car comment les concilier avec ce Dieu d'amour, de grâce et de pardon que nous célébrons dimanche après dimanche? Oui, ces textes sont déroutants. Mais pourtant, aussi déroutants soient-ils, ils sont là. Qu'on le veuille ou non, ces paroles font partie de la parole de Dieu. On ne peut donc pas faire comme si elles n'existaient pas. Non, au contraire, on se doit de s'y confronter. Et on se doit même de le faire, je dirais, le plus honnêtement possible, c'est-à-dire sans vouloir édulcorer ce qui est dit et qu'on a lu. Nous devons le faire si nous voulons avoir la compréhension la plus globale possible de qui est Dieu. Nous devons le faire, et c'est donc ce que je vous invite à faire ce matin. Et plus précisément, à travers ces deux passages, je voudrais soulever avec vous une question particulièrement troublante qui ressort ici. Comment comprendre la violence de Dieu dans certains textes de la Bible, et en particulier de l'Ancien Testament? Que faire de cette réalité-là qui est devant nous? Et pour répondre à ça, on va essayer en fait de répondre plus précisément aux trois points suivants. D'abord, un premier point fondamental, le nœud du problème. Quelles explications historiques, morales ou théologiques pouvons-nous tenter de donner à ces épisodes? Puis ensuite, on essaiera de dire rapidement deux mots sur le lien entre ces passages et le Nouveau Testament. Comment garder une cohérence entre les deux alors que le message semble radicalement différent. Et puis enfin, on verra quelle réponse supplémentaire et essentielle va venir apporter la venue de Jésus et sa mort sur la croix à cette question. Alors, c'est un fait. La violence, on le sait, est constamment présente dans notre monde, mais même aussi dans la Bible. De Genèse 3 à Apocalypse 20, nous pourrions dire qu'elle a pignon sur rue d'une manière ou d'une autre. C'est un constat. Mais ce qui nous embête davantage, donc, c'est bien sûr quand Dieu semble mêlé à cette violence. Alors que dire? Dieu est-il violent? Dieu fait-il la guerre? Et il semble difficile, quand on a lu ces textes, de dire « Mais non, pas du tout, vous avez mal compris. » Alors comment comprendre? Quelles explications valables pouvons-nous donner à ces passages de l'Ancien Testament? Je vous invite à entrer dans cette première question. Eh bien en fait, je crois qu'on peut ressortir quelque chose de vraiment intéressant de ces textes, aussi déroutant soit-il. Et même je crois qu'en dépassant le premier abord, en dépassant le premier regard, je crois qu'on peut voir à travers eux un vrai sujet de joie et d'espérance. Et je suis un peu gonflé en disant ça, j'en ai bien conscience. Un sujet d'espérance en lisant ces versets, ça paraît un peu gros. Mais pourtant, essayons de voir. Et pour cela, commençons doucement, avançons petit à petit et revenons peut-être d'abord sur le contexte direct dans lequel ces passages ont été écrits, pour essayer de donner des premières explications à ces paroles de Dieu. Replongeons-nous donc rapidement dans l'histoire. Tout commence, entre guillemets, quand Dieu fait une alliance avec Abraham. Il lui promet à la fois une descendance nombreuse, mais aussi un pays, pour que cette descendance puisse vivre sous l'obéissance à Dieu. La même alliance ensuite est renouvelée à Isaac, puis à Jacob, et ensuite les Israélites partent en Égypte pendant la famine et s'y installent. Là-bas, Pharaon les opprime, ils sont réduits à l'esclavage. Et puis, bien plus tard, arrive Moïse, et avec lui, la délivrance du pays d'Égypte et le départ dans le désert. Pour arriver finalement où nous en sommes ce matin, aux portes du pays de Canaan, ce pays que Dieu leur a solennellement promis quand il a fait alliance avec eux. Mais là, surprise, le pays n'est pas vide. Et il est même occupé par de nombreux peuples qui, eh bien, il faut le dire, n'ont pas vraiment l'intention de s'en aller. Et nous arrivons avec cette constatation à la première explication pour tenter de comprendre ces guerres. Si Dieu veut donner au peuple d'Israël un territoire sur lequel celui-ci va pouvoir exister, un territoire sur lequel celui-ci va pouvoir obéir à ses commandements, au contraire de l'Égypte où il était soumis aux lois égyptiennes, eh bien, s'il veut cela, ce pays, il va falloir le conquérir. Notre première réponse sera donc tout simplement celle d'un vrai, je dirais, pragmatisme historique. Car Dieu n'utilise pas de baguette magique pour déplacer les peuples à sa guise. Non, il décide de s'inscrire dans l'histoire des hommes. Et quelque part, donc ici, il concède à la guerre pour octroyer à Israël le territoire qu'il a lui-même décidé de leur donner dans sa souveraineté de Dieu. C'est une première réponse, je le répète, simplement pragmatique et historique. Mais malgré tout, et on le voit bien, ça ne suffit pas de dire ça. Car au-delà de la guerre, que cet argument pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre, ce qui est encore plus troublant dans les textes qu'on a lus, et vous l'avez sans doute noté, c'est cette volonté d'extermination totale. Comment peut-on justifier cela ? Et c'est sans doute plus difficile. Mais le texte lui-même nous apporte une part de réponse. Je le relis dans Deutéronome. « Ces nations, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu n'auras pour elles aucune pitié. Pourquoi ? Car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. » Si Dieu ne veut pas que ces peuples persistent et existent même autour de son peuple, c'est pour que celui-ci ne soit pas contaminé, qu'il ne soit pas entraîné à leur suite, à se détourner de Dieu pour adorer les idoles qui imprégnaient fortement ces nations. C'est tout simplement pour qu'ils puissent rester ce témoin aux yeux du monde de qui est Dieu et de quelle est sa volonté. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire biblique va bien nous montrer qu'il y avait ici un vrai danger. Et à de nombreuses reprises, ce sera malgré tout la plus grande faute d'Israël d'arriver quand même à se laisser détourner pour aller vers d'autres dieux. On avance un peu. Mais bon, soit dit en passant, on a quand même le droit de trouver cet argument un peu limite. Je ne sais pas vous. Mais parce qu'avec le recul, on sait que ce type de pensée de non-contamination, ont facilement pu justifier les pires guerres de l'histoire. Alors que rajouter ? Dit autrement, en quoi est-ce différent avec Dieu et Israël qu'avec, par exemple, les Khmers au Cambodge, les nazis en Allemagne ou plus proche de nous, les mouvements islamiques ? Et il est difficile de répondre à cette question, avec ces seuls textes en tout cas. On pourra peut-être juste remarquer là-dessus qu'à la différence de beaucoup d'autres exemples, c'était quand même ici une guerre très limitée géographiquement qu'avait autorisé Dieu. Une conquête et un territoire limité, au contraire de ces États ou de ces religions totalitaires qui veulent conquérir par la force toujours plus, le monde entier même s'ils le pouvaient. Ici, c'était juste un territoire pour un peuple qui n'en avait aucun. Mais bon, je ne sais pas si ça nous suffira comme réponse. Alors, essayons donc d'aller chercher encore plus loin que ces premiers arguments. Et on va pouvoir aller plus loin. Et même si ce qu'on vient de dire va rester valable, puisqu'on le trouve dans les Écritures, il me semble en fait que la vraie raison, la raison théologique, pourrait-on dire divine, est en fait bien plus profonde que cela. Qu'est-ce qui peut justifier théologiquement ces textes? Eh bien, je dirais que c'est tout simplement pour nous la découverte de la réalité d'un Dieu qui juge. Si Dieu a toléré et même impulsé cette violence, c'est parce qu'il est un Dieu de jugement et que l'extermination des peuples cananéens, au-delà de la nécessité d'un territoire et d'une protection morale pour Israël, était surtout un jugement contre ces peuples. Et on le lit explicitement dans la Genèse, quand Dieu fait pour la première fois cette fameuse alliance avec Abraham, il lui montre le territoire qu'il promet à ses descendants, et il lui dit, c'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens, les Cananéens, enfin tous ces peuples, n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. La vraie raison de cette guerre, c'est un jugement contre les Cananéens. Même si, d'ailleurs, on voit déjà apparaître ici les notions de grâce et de pardon, puisque ce jugement est différé. On voit déjà la patience de Dieu. Mais ils ne saisiront pas cela, et au contraire, il nous est dit qu'ils mettront le comble à leurs crimes, et le mot est fort. Et pour cela, oui, ils vont être jugés et même exterminés. Et alors, c'est clair que c'est dur, que c'est extrême, sans doute. Mais je crois qu'il nous faut l'entendre. Dieu est aussi un Dieu de jugement. Et si on veut prendre la Bible dans sa totalité, on doit donc aussi prendre cette réalité. Dieu est un Dieu d'amour et de pardon, oui, bien sûr, mais il est également un Dieu juste, un Dieu de justice, et donc un Dieu qui, de fait, va punir l'injustice. Et d'ailleurs, cet épisode violent du jugement des Cananéens n'est finalement sans doute qu'une préfiguration de ce qui va se passer dans l'avenir lors du jugement dernier. Et si vous lisez les textes de l'Apocalypse à ce sujet, vous y verrez également de la violence et de la destruction. Parce que Dieu se doit de punir le mal et qu'il le fait pour de vrai. Ce ne sont pas juste des mots. Mais soyons clairs, dire cela n'enlève rien à sa perfection morale ou à sa perfection d'amour même. Au contraire, c'est s'il laissait le mal impuni qu'il serait moins parfait. La vraie perfection de Dieu ne pourrait pas être dans le fait de dire « c'est pas grave » à tout ce que les hommes font de mal. Non, la vraie perfection de Dieu, c'est de juger avec force tout ce qui est mal, tout en offrant en même temps un moyen de grâce et de pardon. On y reviendra. Mais déjà ici, sur ce point, je crois qu'on pourrait avoir un premier sujet d'espérance quand même. Car quand on voit toute la haine et toutes les injustices de ce monde, on a besoin de savoir et d'espérer que ces choses seront un jour punies. Quand on voit le mal que peuvent faire les hommes, quand on voit un violeur d'enfants, quand on voit un mari qui frappe sa femme, ou tant d'autres exemples, on veut pouvoir se dire que cela ne restera pas impuni. Et ces textes sont là pour nous dire cela. Et en plus, ces textes, je crois qu'ils nous le disent de la bonne façon. Car quand la Bible nous révèle la réalité d'un Dieu qui punit le mal, elle nous montre aussi qu'il le fait de façon pleinement juste, bien sûr, mais également de façon pleinement impartiale. Et ça, je crois que c'est vraiment important à relever. Dieu n'est pas partisan pour un peuple par rapport à un autre. Et elle est là, je crois, la grande différence avec toute autre guerre historique, sainte, entre guillemets même, que l'on voudrait à tort assimiler avec celle que l'on trouve dans la Bible. Non, ce n'est pas la même chose, parce que dans la Bible, Dieu juge le mal chez les autres. Oui, bien sûr, mais il le juge également chez son propre peuple. Et ça, ça change tout. Je vous cite juste un texte de Jérémie qui dit ça, à un moment où le peuple d'Israël était infidèle. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les combattants qui luttent avec leurs armes à l'extérieur, je vais les faire revenir et se replier à l'intérieur de cette ville. Et moi-même, je combattrai contre vous en déployant ma puissance avec colère, avec fureur et une grande indignation. Dieu se bat même contre son propre peuple. Parce que, tout simplement, en fait, Dieu se bat contre le péché, où qu'il soit et quel qu'il soit. Et il le fait de façon impartiale. Quoi qu'il en soit, à travers toutes ces raisons que nous venons de voir, je crois que ces textes sont vraiment là pour nous faire réfléchir. Et ça me permettra de conclure sur cette première partie. Parce que le message de la Bible, ce n'est pas « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Le message de la Bible, ce n'est pas « vivez comme il vous plaît et j'oublierai tout au final ». Non. Le message de la Bible, c'est aussi de nous faire prendre conscience de l'horreur du péché et de la guerre sans merci que Dieu mène contre lui. Alors bien sûr, et heureusement, le message biblique ne s'arrête pas à ça, car sinon on serait bien mal embarqué. Parce que, entre parenthèses, on l'a bien compris, ce péché dans son ensemble que Dieu condamne chez les Cananéens ou chez Israël, c'est le même que celui qui nous concerne. Oui, heureusement, la Bible va plus loin que cette révélation d'un Dieu de justice qui juge le mal. Mais néanmoins, elle nous montre aussi cette réalité. Et rien que pour cela, je crois que nous ne devrions pas faire l'impasse sur de tels textes. Voilà donc pour cette première question de la violence dans l'Ancien Testament. Réalité pragmatique et historique d'abord, mais surtout preuve d'un Dieu qui juge et qui combat le mal. Je passe maintenant, mais très rapidement, à notre deuxième question pour dire quelques mots quand même sur le Nouveau Testament, parce qu'il nous concerne en premier lieu. Le Nouveau Testament qui, disons-le, en général, nous dérange un peu moins sur cette problématique de la violence. Il semble un peu plus light sur la question. Mais alors, du coup, c'est une autre interrogation qui arrive pour nous. Tout simplement, pourquoi est-ce que ça a changé? Pourquoi les choses semblent différentes? Et elles le sont, vraiment. On se rappelle juste quelques paroles de Jésus. En effet, dit Jésus, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Ou alors un autre texte, lors d'un autre épisode de sa vie. En voyant cela, les disciples Jacques et Jean s'écrièrent, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Ça, c'était un jugement. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Dans le Nouveau Testament, la guerre et la violence semblent ne plus avoir droit de cité. Mais alors donc, pourquoi cette différence? Est-ce Dieu qui a fini par changer avec le temps? Non, bien sûr, Dieu ne change pas. Mais par contre, on pourrait dire que c'est le contexte, que c'est l'alliance qui a changé. Car l'alliance faite dans le Nouveau Testament n'est plus la même que celle de l'Ancien. Elle n'est plus liée à un peuple, elle n'est plus liée à un territoire. Cette nouvelle alliance est dorénavant liée à des personnes individuelles disséminées à travers le monde. Et donc la guerre de Dieu contre le péché n'est plus géographique ou collective, mais elle a plutôt lieu directement dans le cœur de chacun. Mais Dieu, bien sûr, reste le même. Il est encore un Dieu d'amour et de pardon, mais il est aussi encore un Dieu de jugement. Et du coup, puisqu'il est le même, je me dis qu'on peut quand même préserver ces images de combat et de guerre qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais en les voyant sans doute pour nous et pour nos quotidiens de façon plus spirituelle. Et on se rappellera par exemple les paroles de Paul sur l'armure spirituelle de combat que le chrétien est appelé à revêtir. Et s'il y a donc encore extermination du mal et du péché, et il doit y avoir cela, puisque Dieu ne change pas, eh bien il s'agira plutôt du péché qui persiste encore dans chacune de nos vies. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Mais par contre, ça va me permettre d'introduire maintenant, dans cette dernière partie, l'apport de Jésus dans cette problématique. Jésus, la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Jésus, le point de convergence de toute l'histoire biblique. Qu'apporte-t-il de plus à notre réflexion? Eh bien, beaucoup, en fait. Et c'est même là que ce thème va pouvoir devenir pour nous un sujet de joie et d'espérance. Et je relèverai deux choses. La première va nous amener à la croix, le lieu d'une des plus grandes violences de l'histoire. À la croix, le seul être parfaitement juste est horriblement torturé et exécuté. Je ne sais pas si on mesure toujours bien ça. Je me permets de reprendre ici un point que j'avais déjà abordé avec vous en début d'année sur le thème de la souffrance et qui me semble ici aussi fondamental. Parce qu'on a beaucoup parlé de la violence des hommes, commandée par Dieu même parfois, pour exercer son jugement. Mais voici que sur la croix, c'est toute la perspective inverse qui est devant nous. Car à la croix, c'est Jésus lui-même, Dieu fait homme, qui subit de plein fouet la violence. Comprenons bien, Dieu, afin de punir le mal, ne se contente pas d'accepter l'idée de la violence pour les hommes, mais il l'accepte aussi par voie collatérale pour lui-même. Dieu, cet être parfaitement juste, le seul qui aurait pu et aurait dû se tenir loin de toute violence, loin de tout péché, ce Dieu-là est entré dans notre monde de violence, de haine, de mal et de souffrance, et en a subi les effets et les conséquences les plus dévastatrices. Et pourquoi cela? Eh bien, juste par amour pour nous, juste pour pouvoir nous offrir une échappatoire au jugement terrible auquel nous aurions eu droit, en prenant notre péché à notre place. Et ça, ça change tout. Ça, ça nous amène à totalement changer notre conception de Dieu et notre approche de la question de la violence divine dans la Bible. Car à la croix, nous constatons que le Dieu de la Bible n'est pas une sorte de Dieu de la mythologie grecque qui se reposerait au ciel tout en contemplant le monde se débattre violemment dans son malheur et en décidant arbitrairement des cartes à jouer pour voir qui ou qui va l'emporter sur l'autre. Non. À la croix, nous constatons que le Dieu de la Bible n'est pas non plus ce Dieu totalitaire qui, sous couvert de religion, vient exterminer les peuples et les personnes pour s'imposer et augmenter son territoire. Non. Non, notre Dieu n'est pas ainsi. Bien au contraire. Il est ce Dieu parfaitement juste qui vient juger de façon équitable le mal et le péché en chacun. Et il est aussi, et encore plus, par son entrée dans ce monde de violence, il est ce Dieu qui vient nous ouvrir une porte de sortie à notre condamnation violente et méritée. Dieu est celui qui, par son sacrifice, nous offre la solution à son jugement. Une solution violente, mais pour lui, est la seule solution valable en face de notre condamnation. La saisirons-nous, cette solution? Les Cananéens n'en ont pas voulu. Et ils ont mis le comble à leur crime. C'est aussi une liberté que nous avons. Mais à tous ceux qui veulent suivre leurs traces et continuer à s'éloigner de la volonté de Dieu, à tous ceux qui veulent continuer à se désintéresser tout simplement de Dieu, à l'ignorer, eh bien ces textes de la Bible sont là pour leur adresser un avertissement clair et solennel. Un jour, Dieu demandera compte de ta vie. Un jour, nous éprouverons tous le jugement de Dieu. À chacun de voir s'il veut le vivre au travers du Christ déjà mort pour nos péchés, ou bien s'il veut le vivre seul, face à face avec Dieu. Serons-nous des Cananéens? Ou bien serons-nous un autre peuple de l'Ancien Testament, les Ninivites, les habitants de Ninive, vous savez, à l'époque de Jonas, qui n'étaient pas meilleurs. C'était un peuple qui était aussi loin de Dieu. C'était un peuple sans Dieu qui faisait le mal. Mais qui, suite à son avertissement par la voix de Jonas, c'est un peuple qui va prendre les choses au sérieux, qui va se repentir et qui va se tourner vers Dieu. Et leur fin sera différente de celle des Cananéens. Ils seront pardonnés par Dieu. Que choisirons-nous? Et puis, deuxième chose à dire, pour tous ceux parmi nous justement qui ont fait le choix déjà de s'attacher fermement à Jésus. Ce mal, on l'a vu, Jésus l'a vaincu à la croix, et un jour, il nous fait la promesse qu'il le vaincra définitivement. Vous vous rappelez, je vous ai dit en introduction que la violence était présente dans la Bible jusqu'à Apocalypse 20. Mais notez-le bien, la Bible ne s'arrête pas à Apocalypse 20. Elle s'arrête en fait à Apocalypse 22. Et les deux derniers chapitres font toute la différence. On y voit la fin du mal, on y voit la fin de la souffrance, on y voit la fin de la violence, après le jugement. Je vous en cite juste un extrait. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Dieu promet la fin de la violence, Dieu promet la venue du jour où le mal et la violence n'existeront plus. Et c'est ici, à la fin, comme ça l'était au commencement, c'est ici, soyons-en sûrs, qu'est la volonté suprême et première de notre Dieu. Et une lecture complète des Écritures nous permet de l'affirmer. Le Dieu de la Bible est un Dieu de paix. Il aime la paix. Il veut la paix. Aucun texte ne contredira jamais cela. L'entrée du péché dans le monde a fait que le jugement de Dieu est devenu nécessaire, mais pour un seul objectif, déjà manifesté à la croix, nous offrir la vraie paix. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, oui, ces réalités me procurent de la joie et de l'espérance. Et dorénavant, quand je lirai de tels textes, si durs, et si troublant, eh bien j'essaierai toujours de les regarder sous l'angle de la croix. Parce que c'est là, et seulement là, que les choses trouvent leur vrai sens, que nous contemplons Dieu dans sa vraie perfection parfaite. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, mais qu'il est bon d'appartenir à un Dieu dont les voies sont si lumineuses. Amen.